Salut à tous, bienvenue dans Arrêt Buffet, votre podcast rugby à retrouver chaque jeudi sur toutes les bonnes plateformes d'écoute et en vidéo sur eurosport.fr et rugbyrama.fr. Évidemment, Imanol Arridordoki est avec nous comme chaque semaine et dans quelques instants, vous l'entendrez dire du bien de l'aviron bayonnais. Salut Imanol, t'es prêt, j'espère.
Salut Olivier, oui, je suis prêt. Salut tout le monde.
Ça va être un moment douloureux, mais ça va bien se passer. Tu es évidemment accompagné par deux journalistes de la rédaction du Midi Olympique, Arnaud Berdelet, qui s'est battu pour retrouver sa place de titulaire cette semaine. Bravo Arnaud, et puis Pierre-Laurent Gou, qui commence à pointer régulièrement le bout de son nez. On sent que tu es bien avec nous, Pierre-Laurent, aussi. Hein. Salut les gars.
Mais je profite de la villégiature en Nouvelle-Zélande de Simon Valzer, surtout. Bonjour à tous.
Salut.
Arnaud, pas de commentaire, non ? Ça va, parce que la semaine dernière, on t'avait un petit peu chambré là-dessus.
J'ai plus souvent été remplaçant que titulaire, donc je m'y suis bien habitué. C'est bien aussi de 10 minutes de temps en temps. C'est très bien.
Un redoutable finisseur. Allez, au programme cette semaine. C'est la pire semaine que j'ai vécue depuis que je suis entraîneur. Je ne vais travailler que pour les joueurs et l'institution. Gonzalo Quesada n'y est pas allé de main morte ce week-end, une semaine après l'annonce par le Midi Olympique de l'arrivée la saison prochaine de Laurent Lhabitte et Karim Ghezal à la tête du club parisien. On va profiter justement de ta présence, Arnaud, parce que tu suis notamment le Stade français. Tu vas nous éclairer sur les dessous de cette affaire qui provoque un nouveau psychodrame dans ce club où décidément rien n'est jamais simple. Dans la deuxième partie, pour faire plaisir à Imanol, nous allons donc parler de ces épatants bayonnais qui viennent de faire tomber les champions d'Europe Rochelet, emmenés notamment par sa charnière internationale Camille Lopez, Maxime Macheneau. Bayonne semble bien parti pour se mettre à l'abri dans la course au maintien, non ? Imanol, on attend avec impatience ton analyse. Et puis on terminera avec la Coupe du Monde féminine de rugby et l'immense défi qui attend les filles du 15 de France samedi face à l'Angleterre pour leur deuxième match. L'exploit est-il possible contre ces diaboliques anglaises qui restent sur 10 victoires consécutives face à nos bleus ? La nette victoire contre l'Afrique du Sud vous incite-t-elle à l'optimisme, messieurs ? Allez, on parle de tout ça dès maintenant. On démarre à Arrêt Buffet. On démarre donc avec le Stade français, messieurs. On l'a déjà évoqué la semaine dernière quand le Midi Olympique a annoncé l'arrivée la saison prochaine de Laurent Lhabitte et Karim Ghezal à la tête du club parisien. Mais l'affaire a pris désormais une toute autre ampleur après la victoire contre Perpignan ce week-end. Gonzalo Quesada s'est lâché. C'est la pire semaine que j'ai vécue depuis que je suis entraîneur. Je ne vais travailler que pour les joueurs et l'institution. Imanol, ce sont des mots forts. Une étape supplémentaire a été franchie. Ce club, décidément, ne cessera jamais de nous étonner. Toi, tu le connais un petit peu d'ailleurs, Gonzalo Quesada. Il a paru marqué, ça se comprend, non, après cette semaine?
Le connaissant à Gonzalo, c'est sûr que voilà, c'est quelqu'un qui joue beaucoup sur l'affect. Management par l'humain, donc après toutes les sorties et certainement aussi un entretien froid avec Hans-Peter Wild qui disait qu'ils ont injecté des tonnes d'argent mais que les résultats ne sont pas là. Il y a une réunion qui a été faite à la française, mais qu'ils ont oublié d'aller du point A au point B, ils sont passés par tous les autres points. Donc c'est vrai que c'est des déclarations qui sont dures à entendre quand on consacre beaucoup de temps et d'énergie à tenir un projet. Alors tout ça, c'est hors contexte sportif. Maintenant, il y a quand même une belle réponse du groupe. On sent que moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est que déjà, les joueurs ne l'ont pas lâché, parce qu'ils auraient pu aussi le lâcher dans une période comme ça. On l'a évoqué la semaine dernière. Il y a une belle réaction des joueurs, en tout cas sur le terrain. Maintenant, c'est ce que j'espérais aussi, même si le sort de Gonzalo est acté, c'est que voilà, les joueurs ne le lâchent pas et que sportivement, ça provoque peut-être un électrochoc et ça leur permet de réaliser une belle saison.
C'est vrai qu'on l'a lu ce lundi dans le Midi Olympique. Hein. Pierre-Laurent, c'était très bien raconté. Ça a été une incroyable semaine vécue par le Stade français.
Voilà, ce lundi, et surtout il y a deux lundis, parce que si Gonzalo Quesada a vécu sa pire semaine, le week-end précédent l'annonce, je pense que Arnaud Bordelais, lui, a pas beaucoup dormi, parce que quand on a une telle information, et c'est lui qui l'avait entre les mains, il faut la rendre publique, et Arnaud savait pertinemment que ça ferait du bruit et que ça bousculerait un peu le Landerno rugbystique. Donc je vais lui laisser la parole, parce qu'il connaît tous les tenants et aboutissants de cette histoire.
Ouais, non, mais effectivement, ce qui est assez dommageable finalement, c'est que le timing où on a révélé cette information est peut-être un peu prématuré. si on se place du point de vue du club, mais d'un point de vue journalistique, voilà, tout avait été vérifié, sourcé. On n'avait aucun doute sur le fait que Laurent Labitte et Karim Ghezal allaient arriver au Stade français. On ne connaissait pas exactement leur arrivée, mais ce qui est effectivement dommageable, c'est que Gonzalo Quesada l'a appris par la presse et je me mets à sa place. Ça doit être assez terrible et la semaine qui a suivi a été extrêmement difficile. Le président de Peter Wild est donc revenu d'urgence à Paris, a rencontré tout le monde, a acté effectivement auprès de Gonzalo qu'à l'issue de la saison actuelle, il ne serait plus aux commandes du club. Quid de l'avenir des adjoints, Laurent Sampere, Julien Arias, Paul Gustard. Aujourd'hui, on n'en sait pas trop plus, sinon que c'est Laurent Labitte qui aura finalement leur destin entre les mains. Est-ce qu'il va vouloir travailler avec certains d'entre eux? On nous a laissé entendre, plusieurs sources nous ont laissé entendre que certains de ces adjoints pourraient effectivement rester. Donc oui, il y a eu une semaine très, très agitée. Comme l'a souligné très justement Imanol, il y a eu une belle réponse sur le terrain. On a rappelé quand même dans les colonnes de Midi Olympique que non pas qu'il y ait eu une fracture dans le vestiaire, mais il y a eu quand même une fissure. C'est-à-dire que si Gonzalo a reçu quand même beaucoup de messages de sympathie de la part de ses joueurs, comme dans tous les groupes de rugby, Imanol est bien placé pour témoigner, un manager fait rarement l'unanimité. Il y a toujours des joueurs qui, plus ou moins secrètement ou plus ou moins de façon maligne, se réjouissent du changement d'entraîneur. Certains espèrent pouvoir jouer davantage, certains espèrent une autre forme de management. C'est pareil dans tous les clubs, ça existe à chaque changement d'entraîneur. Ça, Gonzalo l'a assez mal vécu et on le comprend aisément, d'autant plus que c'est intervenu au cœur d'une semaine volcanique dans les rangs du Stade français. Mais voilà, ils ont bien répondu, 52-3 face à Perpignan, une petite équipe de Perpignan. On va voir maintenant comment le Stade français va réagir ce week-end à Pau et la semaine suivante à Brive. Ils ont une fenêtre qui pourrait leur permettre de se positionner dans le haut du classement face à des adversaires qui sont quand même, on va dire, moins épais, moins redoutables que le sont le Stade toulousain, La Rochelle ou d'autres clubs de ce calibre.
Mais après, c'est ça le paradoxe, c'est que sportivement, ça ne va pas si mal en plus cette saison pour le Stade français. Ce n'est que le début de la saison, évidemment, mais ils sont cinquième pour l'instant. Ce n'est pas la catastrophe. Donc, on se demande pourquoi il y a une telle révolution finalement.
Je crois qu'il y a eu, beaucoup de non-dits sur les 12 derniers mois. Il faut remonter très loin en arrière. Lors de la saison 2019-2020, donc Gonzalo débarque au Stade français, il accepte de travailler avec l'équipe qui est en place, c'est-à-dire Julien Arias et Laurent Sampere qui ont fait le taf jusqu'à ce moment-là. Gonzalo arrive seul, c'est pas son équipe, c'est pas son staff. Il demande à être renforcé. Là-dessus, il y a eu un premier épisode où des contacts ont été noués avec Xavier Garbajosa, qui était à ce moment-là sans club et qui avait donné son accord pour rejoindre le Stade français. Il y a eu plusieurs réunions en ce sens. Ça ne s'est pas fait. On dit que c'est par la volonté de Gonzalo Quesada qui a préféré finalement se renforcer autrement qu'avec Xavier Garbajosa. Donc il y a eu une première cassure entre les dirigeants parisiens, notamment Thomas Lombard et Gonzalo Quesada. Et puis il y a eu différents passages un peu houleux, où la communication s'est un peu fissurée entre les deux hommes. Et je crois que le manque de résultats, l'an dernier quand même le Stade français a terminé 11e avec sur le papier un effectif somme toute plus que correct. Donc est-ce que Hans-Peter Wild, Thomas Lombard, la direction hein, en général du Stade français s'est montrée impatiente? C'est possible, mais en tout cas je crois que lorsque il y a deux discours, deux méthodes, deux visions très différentes à la tête d'un club, c'est compliqué d'avancer et d'aller dans la même direction. Est-ce que c'est une bonne chose? On le saura lorsque Laurent Labitte et Karim Ghezal seront arrivés, qu'ils auront mis leur staff en place. Le président Wild l'a dit, il va donner des moyens importants, d'autant plus que le Stade français, après une gestion assez calamiteuse avant l'arrivée de Thomas Lombard, va pouvoir probablement être bien plus actif sur le marché des transferts, puisque jusqu'à présent, ils souffraient d'être au taquet du salary cap. Ils ont libéré pas mal de masse salariale ces derniers mois, ces dernières années. Ça a fait couler beaucoup d'encre, notamment avec le départ de Gaël Ficou pour le Racing. Donc, on va voir si oui ou non le Stade français repart de l'avant la saison prochaine. Mais attention, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Comme l'a dit Imanol, cette équipe, ou non, c'est toi qui l'as dit, Olivier, cette équipe aujourd'hui, elle est dans les clous. Hein. Elle a perdu oui. trois fois à l'extérieur, elle a gagné trois fois à la maison. Elle a pris un bonus défensif à Bordeaux, elle aurait pu en prendre un, elle aurait peut-être même pu gagner à Lyon. Donc, attention à ce que Gonzalo Quesada ne donne pas des regrets à la fin de la saison au président Wild.
Alors ce président, il a quand même une drôle de communication. Hein. Il y a eu ses mots forts dans le midi olympique lors de cet entretien qu'il t'a accordé. On a injecté des tonnes d'argent, on n'a rien gagné. C'est quand même un drôle de président. Il est en poste depuis 2017. Il ne va pas se lasser à force. Il n'y a pas un risque quand même aussi au bout d'un moment qu'il s'en aille après avoir dépensé tant et tant d'argent.
Et je rajouterais un drôle de management parce qu'on parle de l'habité Guézal, donc on va pas qui arriveront forcément et qui prendront leur fonction réelle qu'après la Coupe du Monde 2023 au mieux, c'est-à-dire octobre-novembre, tout l'été où il va falloir reconstruire l'intersaison et potentiellement aussi gérer une bonne saison du Stade français, parce que pour l'instant, ils sont à peu près dans les clous. C'est bizarre, il fait un certain constat, comme l'a expliqué Arnaud. Il recrute deux entraîneurs de renom et aux compétences reconnues, comme l'a révélé Arnaud, mais ils pourront les mettre en place que 5 mois après, entre guillemets, le début de la saison. Il faut savoir que Imanol est bien placé pour le savoir, c'est qu'une saison, elle débute le 1er juillet. Et souvent, une intersaison réussie engendre une saison réussie.
Mais ouais, toi, Emmanuel, justement, quel est ton avis là-dessus en tant qu'ancien joueur ? Toutes ces histoires, toutes ces affaires autour du Stade français, ça ne peut pas faire fuir finalement les potentiels recrues ? Au bout d'un moment, tu ne te dis pas « Ouh là là, mais dans quoi je vais tomber, moi ?»
Bah déjà, je tiens à relever qu'on a assisté à l'intervention la plus longue depuis le début de l'émission de Arnaud Bordelais.
On n'était pas loin du tunnel, c'est vrai.
Voilà, donc félicitations, Arnaud, pour la position. Et après, pour revenir sur le sujet, ben ouais, c'est quand même très, 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 comment dire, c'est pas sécurisant en tout cas pour un joueur qui va signer au Stade français d'arriver sans son manager, même si forcément ils vont s'occuper du recrutement. Il y a toujours une période, cette période-là d'intersaison, de préparation physique où, voilà, où tout le monde se renifle un peu. Donc, où le manager a besoin d'être là pour sentir ses joueurs. Il peut y avoir aussi des belles surprises, des joueurs sur lesquels il ne comptait pas réaliser une grosse intersaison, progresser aussi rugbystiquement. Donc, c'est vraiment une saison très importante parce qu'arriver comme ça, alors que la saison sera lancée, ça peut être très compliqué. Alors, ça peut très bien se passer, mais ça peut aussi très mal se passer. Donc, c'est un peu paradoxal et forcément, pour les joueurs actuels, bon, mais pour ceux qui ne jouent pas et qui sont contents du sort de Gonzalo Quesada, ben à eux de montrer qu'ils méritent de jouer. Ils auront quand même du travail. Pour ceux qui vont être recrutés, ben il va y avoir ce début de saison quand même un peu paradoxal, à savoir ben, qui va être à la tête un peu de toute cette préparation. Donc, ce n'est pas non plus sécurisant pour un joueur comme ça qui change de club d'arriver dans des conditions, on va dire, un peu instables. Et là, je vous rejoins sur le fait que c'est une décision, même si ça ne remet pas en question la qualité des recrues au niveau du staff, ça peut remettre en question un peu, ouais, le projet du président. Voilà.
Le timing pose question, effectivement. Le timing peut éventuellement poser question. On peut s'interroger sur est-ce que c'est oui ou non pertinent de se lancer dans un nouveau projet, sachant que les deux têtes pensantes, les deux directeurs, enfin en tout cas Laurent Labitte, et qui aura probablement ce poste de directeur du rugby avec une vision globale sur tout le développement du club, et Karim Guézal qui serait positionné en entraîneur numéro 1. Effectivement, s'ils sont absents, alors j'espère jusqu'en novembre, pas jusqu'en octobre, comme l'a dit Pierre-Laurent, parce que ça veut dire s'ils arrivent en octobre, ça veut dire qu'on ne sera pas champion du monde. Donc, ce n'est pas une bonne nouvelle. Donc, j'espère qu'ils arriveront qu'en novembre. D'ailleurs, à ce sujet-là, il y a un point contractuel à régler qui devrait se faire assez en bonne intelligence. Mais Karim Guézal est sous contrat quand même avec la Fédération jusqu'en juin 2024. Donc, s'il doit arriver plus tôt au Stade français, il y aura un contrat à régler d'abord avec la Fédération française de rugby.
Mais pour l'instant, qu'est-ce qui se murmure, toi ? Qu'est-ce qu'on entend dans les couloirs du Stade Jean Bouin quant à cette situation?
C'est-à-dire la position des joueurs, la position,
ouais, la position des joueurs.
Les joueurs, en fait, aujourd'hui, ils ont envie de prendre leur destin en main. Comme me l'ont dit certains, on ne joue pas pour les entraîneurs, on joue pour nous, c'est notre carrière. On ne joue pas forcément. Voilà, des fois, il faut c'est là où j'aimerais entendre Imanol, mais je pense que parfois il faut être égoïste. Voilà, sans parler d'autogestion ou quoi que ce soit, puisque Gonzalo est encore aux commandes, hein, y a aucun souci, y a pas d'ambiguïté dans mon propos. Mais voilà, les joueurs, ils veulent se prendre en main. Ils se sont dit, quitte à ce que ce soit le bordel, autant qu'on réalise une belle saison. Donc c'est là où, c'est ce que je disais tout à l'heure, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise pour le Stade français, même si sur le plan de la qualité de l'effectif, le Stade français me paraît finalement quand même derrière des équipes comme le Stade toulousain, comme La Rochelle et comme d'autres équipes de ce calibre.
Toulon, Montpellier,
évidemment. Maintenant, je rappelle qu'en 2015, avec Gonzalo Quesada, cette équipe, elle était aussi sur le plan de l'effectif, probablement en dessous de certaines autres équipes. Et que finalement, sur trois matchs lors des phases finales, pardonnez-moi l'expression, mais ils ont cassé la gueule à tout le monde. Donc, ils ont marché sur tout le monde, que ce soit en barrage face au Racing, en demi face à Toulon, ou en finale contre, je me souviens plus du coup, 2015, contre Clermont.
Voilà. Emmanuel, voilà. Toi, sur cette capacité des joueurs à faire abstraction du contexte, comme l'a dit Arnaud, qu'est-ce que tu en penses ? On est quand même marqué obligatoirement par de tels remous.
Après, ça dépend toujours de la qualité des joueurs, de leur état d'esprit, de la cohésion qu'il y a dans le groupe. Ben, soit chacun fait son caliméro et se planque pendant la saison et forcément ça ne marchera pas, il y aura des résultats en dents de scie et la saison va être très très longue. Soit, comme le disait Arnaud, voilà, il décide de se prendre en main et je pense qu'un garçon comme Morgan Parra a quand même l'expérience et la bouteille pour leur expliquer que les principaux responsables des résultats sont quand même avant tout les joueurs.
C'est exactement ce que j'allais dire, Emmanuel, tu as entièrement raison.
Et que quand tu es joueur, ça n'a jamais été la faute de l'entraîneur si tu n'es pas bon. D'abord, il faut être bon individuellement. Il faut aussi forcément penser à soi, un peu à sa carrière. Mais si tout le monde est dans cette ligne de mire et il met du sien pour sauver la saison, parce que voilà, hein, pour l'instant, il y a 6 matchs, 3 victoires. Ils sont 5e. Voilà, ils sont dans les clous. Ils peuvent même réaliser une bonne saison. Donc, il y a des équipes au-dessus, certes, mais voilà, c'est loin d'être catastrophique et je pense qu'ils peuvent prendre leur destin en main, oui.
Et d'ailleurs, souvent, quand la presse révèle des histoires comme cela, dans tous les sports collectifs, en rugby, c'est très vrai, mais j'ai d'autres exemples en tête, en basket ou en foot, le groupe né de ces histoires, une cohésion d'un groupe de sportifs et réussit de grandes choses. Un des exemples relaté parce qu'il y a Imanol, c'est en 2011 où on leur tapait dessus et ils perdaient des matchs et puis ils se sont pris en main avec, je crois, aussi quand même la patte de Gonzalo Quesada et puis ils ont été en finale après.
Oui, on lui rappelle suffisamment. C'est vrai, avant de clore ce débat sur le Stade français, Arnaud, vous n'avez pas répondu tout à l'heure sur le président, c'est Hans-Peter Wild, que le grand public connaît peu, mais quand il accorde des entretiens, il ne va pas de main morte en général. On l'a vu encore dans le midi olympique, donc avec toi, Arnaud, c'est quand même un drôle de personnage hein, que ce milliardaire qui a lâché des dizaines et des dizaines de millions d'euros. Je crois qu'on parle de 100 millions, je crois même, depuis
son arrivée. On est à plus de 100 millions d'euros effectivement dépensés et pour un résultat qui est aujourd'hui nul, puisque aucun titre et plus d'emmerdes que de moments joyeux. Donc effectivement, je pense que même pour lui, ça doit être pesant. Après, il a un franc-parler, il a une espèce de liberté qui lui fait parfois commettre peut-être des maladresses, mais c'est quelqu'un quand même qui est très réfléchi, qui est très... il n'est pas arrivé là par hasard. Hein. On ne devient pas milliardaire par l'opération du Saint-Esprit. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui est un entrepreneur. Maintenant, l'entrepreneuriat dans le sport est peut-être un peu différent. Un chef d'entreprise peut être absent parfois de son entreprise, mais dans le sport, c'est compliqué. Et c'est vrai que Hans-Peter Wild, de par ses autres activités professionnelles, n'est pas souvent présent à Paris. Il le regrette lui-même, hein. Mais peut-être qu'il devrait être un peu plus présent pour savoir exactement tout ce qui se passe dans son club, pour savoir tout ce qui s'y dit, pour savoir qui fait quoi exactement. Là, on lui rapporte, et parfois on lui rapporte des choses qui sont contradictoires avec ce que d'autres lui rapportent. Donc, pour lui, ça ne doit pas être simple de se faire une idée. Moi, je pense que le principal reproche qu'on peut lui faire, c'est effectivement de manquer de présence au club. maintenant, lui, il répond que voilà, il a d'autres activités professionnelles et qu'il vient à Paris quand il en ressent simplement le besoin.
Merci Arnaud pour cette réponse concise qui va faire plaisir à Imanol.
Ben oui, ben, j'irai un peu plus loin. C'est que je pense qu'il y a quelque chose qu'il ne conçoit pas, c'est que dans le business, on peut tout calculer. En tout cas, on peut maîtriser beaucoup de choses. L'entreprise du sport, c'est encore plus complexe parce qu'il faut gérer une entreprise, mais on est toujours tributaire des résultats sportifs. Et voilà, et ça, c'est une inconnue dans l'équation qu'on ne peut pas maîtriser. Et voilà, j'ai lu un peu ses propos quand il dit que dans le business, quand on dit quelque chose, on le fait. Bah, c'est vrai que dans le sport, parfois, on se fait beaucoup de promesses. Et c'est peut-être ça aussi qui l'agace. Il a entendu beaucoup de choses, mais on ne peut pas toujours les tenir parce qu'on n'est pas, on est tributaire aussi mais de la forme du moment. Il y a un adversaire aussi en face qui peut être coriace.
Accessoirement, ouais.
Il y a plein d'inconnus qu'on ne maîtrise pas. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, il ne le maîtrise pas. Et je comprends aussi sa réaction parce que il a injecté des tonnes d'argent. Alors, ça marche plus facilement peut-être dans le business, mais dans le sport, ça ne fait pas tout. C'est parce qu'on met de l'argent, qu'on met des noms sur une feuille que ça fonctionne. Bon, malgré ça, il a quand même injecté des tonnes d'argent pour jouer uniquement le maintien. Donc, pour quelqu'un qui a plus que réussi, forcément, dans le milieu professionnel, ça, il doit être un peu agacé. Je pense que son ego en prend un coup et qu'il attend autre chose. Bon, je le conçois. Mais je pense qu'il n'a pas appréhendé encore cette notion du... Voilà, de ce qu'est encore le rugby. Ça reste quand même avant tout un sport aussi de cohésion où les hommes doivent s'aimer et bien s'entendre pour se donner à 200% sur le terrain. Et ça ne s'achète pas.
Ouais, il y aura un vrai test de caractère. Donc, samedi, lors de la prochaine journée, ce sera sur la pelouse de la section paloise. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le Stade français. On risque d'en reparler hein, tout au long de la saison puisqu'on parle souvent du Stade français. Bon, allez, on va s'intéresser maintenant au cas d'un autre club. Il y a un peu moins de millions. Mais il y a de bons résultats aussi. Ça va faire plaisir à Emmanuel. C'est l'Aviron Bayonnais. On va s'intéresser donc maintenant, messieurs, au cas de Bayonne, parce que je sais que ça fait plaisir à Emmanuel, ce promu bayonnais qui est la belle surprise de ce début de saison. 3 matchs à domicile, 3 victoires. Après le Racing et Bordeaux, ce sont les champions d'Europe Rochelais qui sont tombés à Jean Daugé. C'est une belle surprise, ce début de saison des Bayonnais. Emmanuel, est-ce que c'est suffisant, selon toi, ce que l'on voit depuis le début? Est-ce que c'est suffisant pour s'offrir une saison à l'abri du spectre de la descente pour cette formation? Qu'en penses-tu, toi, Le Biarro?
Ah ben, si continue dans cette lignée, que ce soit au niveau de l'état d'esprit, de la qualité du jeu, notamment à Jean Daugé, ben oui, il mérite aujourd'hui, il montre en tout cas que cette place est méritée. C'est pas toujours facile de monter. Il y a un gros travail qui a été effectué par Yannick Bru, qui est remonté à 2 fois en 2 ans, donc qui est assez énorme. Après, le plus dur, forcément, ça va être de se maintenir. On sait que les équipes comme ça qui montent, ben, au début, c'est soit tout bon, soit tout mauvais. Le plus dur commence. Hein. Ça va être de ne pas avoir trop de blessés, de pouvoir garder cet effectif qui fonctionne très bien, puis de garder cette euphorie, parce que pour l'instant, quand même, ils ont joué des grosses équipes et c'était des victoires méritées avec la manière. Donc, c'est de bon augure pour la suite, mais voilà, on a joué que 6 matchs. Aujourd'hui, ils sont quand même, il n'y a que 5 points d'écart hein, entre Bayonne et le dernier Pau, et 4 points, je crois, avec Perpignan, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ça peut encore aller très vite. Il y a beaucoup d'eau qui va couler sous les ponts, mais ils sont bien partis, en tout cas. Ils ont accumulé de la confiance. Et puis, même, je pense que pour les joueurs, c'est important aussi de se dire que voilà, qui finalement, c'est égal vaut de pas déjà cette place. Et puis, il mérite d'être en top 14.
Oui, il y a une maîtrise qui se dégage quand même hein, de cette équipe, au-delà des résultats purs.
Même un beau volume de jeu. Et Emmanuel l'a déjà un peu souligné. Et c'est ça qui m'impressionne en ce début d'année, c'est que Bayonne ne joue pas comme un promu, Bayonne ne joue pas petit bras, que ce soit à Toulon, même si au final ils sont repartis bredouille, ou au Stade français, même à l'extérieur, c'est une équipe qui joue, qui produit du jeu. On avait parlé du recrutement, l'impact de Camille Lopez, on a l'impression que ça fait déjà 3-4 saisons qu'il est à Bayonne. Franchement, chapeau, parce qu'on avait tous, on se posait des questions, est-ce qu'il n'était pas venu un peu en pré-retraite? Il faut savoir que c'était un choix personnel. C'est lui qui a voulu. Il était encore sous contrat avec Clermont. Ça avait fait un peu polémique. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'an passé, au moment de sa signature, qui était précoce. Parce que je crois qu'il avait signé, de mémoire, il avait signé un pré-contrat avec Biarritz. Puis finalement, il voulait aller à Bayonne parce que c'est son club de cœur. Et franchement, lui aussi impressionne parce qu'il a pris tout de suite les clés du camion. Il y a de la qualité, il y a de la qualité autour. Et Emmanuel a raison de souligner le travail effectué par le staff précédent. La greffe Grégory Pata, pour sa première fois en tant que numéro 1 d'un vrai gros club, ça marche et rien n'est fait, mais franchement, beau début.
Oui, moi, je rejoins Emmanuel et Pierre-Laurent à cela près que, et Emmanuel l'a dit, on vient de jouer seulement 6 matchs et que je pense que sur la dynamique de la saison dernière, les Bayonnais surfent encore sur cette série de plutôt bons résultats et en tout cas sur cette qualité de jeu qu'on avait pu apercevoir en fin de saison dernière.
Juste, il ne faut pas minimiser parce que sur ces 3 victoires, sont des ténors. Ce sont 3 équipes qui visent la qualité.
Je ne minimise pas. On va juste rappeler
les noms, Bordeaux, Racing et La Rochelle. Voilà.
Je ne minimise absolument pas. Je dis juste qu'il reste 24 journées et que l'effectif bayonnais n'est pas pléthorique et que l'hiver va arriver et qu'il y aura forcément des blessés, qu'il y aura forcément des absents. C'est juste ça. Moi, ce qui m'inquiète, ça m'inquiète pas d'ailleurs, mais parce que je me montre peut-être moins enthousiaste là à l'oral que mes deux acolytes, mais je suis extrêmement emballé. Moi, je les ai vus jouer au Stade Français. Honnêtement, c'est un scandale qu'ils repartent pas avec un point de bonus défensif à minima, parce que s'ils gagnent à Jean-Moins, il y a strictement rien à dire ce jour-là. Donc je suis enthousiasmé par le jeu produit, et en plus ce jour-là à Jean-Moins, Grégory Pata avait fait tourner un peu son effectif pour soulager les organismes de certains de ses joueurs. Donc je suis très enthousiaste. Je veux juste apporter un bémol sur le fait que on a déjà vu des promus débuter des saisons de la sorte et finalement s'écrouler à mi-parcours, parce que quand le rythme devient intense, quand les gros clubs commencent à faire tourner les machines à plein régime, eh bien, on voit qu'il y a encore un fossé. Donc, c'est compliqué. Donc, oui, effectivement, Bayonne est enthousiasmant. Oui, Bayonne est une bouffée d'oxygène dans ce championnat parce qu'en plus, les images de fin de match, le public, tout ça, c'est juste incroyable et c'est chouette. Maintenant, attention, méfiat. Mais si Bayonne se maintient, j'ai hâte de voir effectivement Emmanuel parcourir les rues de Biarritz avec un maillot de l'Aviron sur le dos.
Ben surtout que tu nous as donné un petit scoop. Tu les vois en finale. Tu as dit qu'il restait, il y a 6 journées de jouer, il en reste 24. Donc ça veut dire qu'il reste 21 de régulière. Barrage demi-finale. Barrage demi-finale.
Je calculais encore comme la Pro D2, pardon. Pro D2, c'est 30 journées, j'en suis désolé.
Est-ce que cette équipe de Bayonne, sur ce que l'on voit, joue le même championnat de bas de tableau que Brive, Perpignan ou encore la section paloise? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer mieux pour cette équipe? Je ne parle pas évidemment de phase finale, mais se mettre suffisamment tôt à l'abri de cette lutte pour la relégation.
Non, c'est trop tôt, c'est prématuré comme discussion. Ça va être long, hein. Ça va être costaud, même si moi, je suis emballé par leur début de saison. C'est que le début, ça peut aller très vite. Les cartes vont être vite distribuées, déjà redistribuées d'ici 2-3 matchs. Donc ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'ils comptent que sur eux, qu'il ne faut pas qu'ils regardent les autres, parce que les équipes avec qui ils vont batailler, quand même, il y a du matos, et à un moment donné aussi, ils vont se réveiller. La saison va être longue, on va rentrer aussi dans l'hiver dans des conditions de jeu différentes. Il va falloir avoir une gestion différente, même si à ce niveau, Bayonne est équipé, notamment avec Maxime Machenot qui amène toute son expérience et Camille Lopez qui fait un début de saison quand même tonitruant.
Ça, c'est le bon coup, c'est la bonne pioche.
Il a trouvé des solutions, il amène beaucoup d'alternance, beaucoup de sérénité. Je crois qu'il a adressé 4 passes au pied pour des essais, des gestes quand même millimétrés de classe internationale. Hein. Ça enthousiasme aussi, et bien forcément, le public, ça leur donne la confiance. Mais ils vont jouer le championnat quand même du bas avec pas mal d'équipes, et c'est là qu'il va falloir être costaud.
Et ils ont un super joueur, c'est le 3/4 centre fidjien Makala qui fait des miracles. C'est pas des miracles parce qu'il fait ça quasiment chaque week-end.
Il fait des étincelles, ouais.
Ah, c'est incroyable. Il a du feu dans les jambes, il casse les plaquages, il déchire les défenses. Franchement, c'est un danger permanent, c'est un vrai poison sur les défenses adverses.
Ces joueurs ne seront pas présents non plus toute la saison. Donc attention aussi, ça peut aller très vite. Alors, je ne vais pas faire de comparaison, mais Biarritz fait un très bon début de saison aussi l'année dernière, avec, en produisant du jeu, en jouant pas petit bras. Voilà, derrière, il faut digérer aussi l'intensité de ces matchs-là, même si tu as des résultats. Ça tape quand même, je dirais, un peu plus fort qu'en Pro D2. Il faut que les organismes digèrent. Souvent, il y a aussi un petit peu de casse qui arrive, donc il va falloir gérer l'effectif. Il va falloir que les joueurs qui intègrent l'équipe soient au niveau. Voilà, donc il y a beaucoup aussi d'inconnus sur la suite de la saison. Ils ne pourront pas s'appuyer sur le même 15 à domicile chaque week-end.
Mmh. Pierre-Laurent l'a évoqué, cette réussite, c'est aussi la réussite d'un homme, hein, celle de Grégory Pata qui succède donc à Yannick Bru. C'est un Gersois, il a évolué notamment du côté de La Rochelle. C'est la première fois qu'il est manager d'un aussi gros club. C'est là encore la preuve qu'il y a du talent chez nos managers français. On en parlait la semaine dernière lors d'un précédent numéro hein, d'Arrêt Buffet où on va des fois chercher des managers à l'étranger. On sent qu'il y a du talent aussi chez nous pour faire briller ces équipes-là.
Oui, c'est la bonne surprise. C'était quelqu'un qui avait l'habitude de travailler dans l'ombre. Il avait travaillé à Perpignan aussi, je ne sais pas si vous vous rappelez, maman, à Auch, bien sûr. Moi, j'avoue que c'est la bonne surprise chez les entraîneurs de ce début de saison. J'avais pas mal d'interrogations sur sa capacité à être le numéro 1. Et il démontre, alors peut-être qu'il y a moins d'ego ailleurs. Comme dit Manol aussi, c'est un groupe qui vient de la Pro D2. Mais je crois que son apprentissage à La Rochelle lui a amené quelques clés, que lui aussi grandit et qu'il fait ses preuves en tant que manager.
Ouais, il n'y a pas toujours besoin d'aller chercher des Stuart Lancaster, par exemple. L'ancien sélectionneur anglais qui sera à la tête du Racing la saison prochaine. Pour terminer, donc Bayonne se déplacera à Castres ce week-end avant de recevoir Perpignan. Finalement, c'est là où on va voir si cette équipe peut nourrir d'autres ambitions, parce que quand on joue le maintien, on peut imaginer qu'ils vont faire l'impasse sur ce déplacement à Castres.
Oh non, c'est leur championnat, Olivier. Et je pense qu'il ne faut pas qu'ils cherchent à jouer autre chose que le maintien. J'étais tout à fait d'accord avec Imanol. Les matchs, on l'a vu lors du déplacement à Brive, où là, pour le coup, ils ont souffert. C'est leur championnat. S'ils peuvent gratter un point à Castres et gagner face à Perpignan, ça sera tout ça de prix pour l'hiver. Hein, il faut faire un peu de gras pour l'hiver.
Très bien, merci. Je vous remercie pour ces précisions. Moi, je voulais un peu m'enflammer. Après tout, j'avais entendu un joueur, c'est Amosa, hein, je crois, à l'issue de la victoire le week-end dernier, qui avait commencé à parler ouvertement du top 6. Je crois qu'il avait été assez vite recadré par le service communication de son club. Bon, allez, on va s'intéresser maintenant à l'équipe de France dans la dernière partie d'Arrêt Buffet. Et oui, parce qu'il y a la Coupe du Monde féminine, important d'en parler. Samedi 9h, retenez bien cet horaire à Whangarei au nord d'Auckland. Le 15 de France féminin dispute son deuxième match de la Coupe du Monde face à l'Angleterre. Ces fameuses Anglaises, ces Red Roses qui restent sur 10 victoires consécutives face à nos Bleus. Alors messieurs du Midi Olympique, Pierre-Laurent et Arnaud, quelles sont les dernières infos de Nouvelle-Zélande? Puisqu'on sait que l'un de vos confrères du Midi Olympique, Simon Walzer, est là-bas. La compo par exemple est tombée. Hein.
Oui, tout à fait. Alors, je vais juste me permettre de te reprendre parce que WH en néo-z, ça se dit F, et donc c'est Whangarei. Voilà.
Ah, excuse-moi, j'ai pas eu de privilège comme vous trois.
J'ai eu la chance de me rendre dans cette bourgade en 2011. J'ai eu la chance de me rendre dans cette bourgade en 2011 qui était aussi une ville haute de la Coupe du Monde masculine de la Coupe du Monde. Donc voilà. Oui, donc le sélectionneur a choisi un peu de faire confiance en grande partie aux filles qui avaient gagné, qui avaient battu l'Afrique du Sud. C'est la finale de la poule. C'est aussi la bête noire d'une génération de françaises, les Gallermet, Marjorie Mayence, Jessie Trémoulière ou Caroline Drouin qui nous accorde dans notre édition de ce vendredi une grande interview. On reste sur 10 défaites contre les Anglaises. C'est les grandes favorites de la compétition, mais d'après ce que nous fait remonter Simon Walzer de Nouvelle-Zélande, les filles y croient. Il y a un petit quelque chose, elles y croient.
L'Angleterre qui a battu les Fidji 84 à 19 avec 14 essais à la clé. Est-ce que la nette victoire des Françaises contre l'Afrique du Sud, 40 à 5, je le rappelle, vous incite à être optimiste, vous, messieurs? Parce que je crois que tout n'a pas été parfait. Hein. Il y a eu un gros trou d'air hein, dans ce match de longues minutes où les Françaises, par exemple, n'ont pas marqué de points.
Mais écoute, Olivier, on attendait un peu ce premier match, même si on savait que les Sud-Africaines n'était pas une équipe non plus de standard. Je pense que c'est un match quand même qui a rassuré les Françaises. En tout cas, on les a senties avec beaucoup d'enthousiasme après le match. Ça, c'est un match qui leur a donné confiance. Voilà, elles vont retrouver aussi quand même des joueuses qui vont intégrer le, même si c'est sur le banc, il y a quand même je crois Ndaye qui est sur le banc et Ménager qui revient aussi sur le banc, donc il va y avoir un peu de poids au niveau du paquet d'avant, parce qu'on sait que les Anglaises, ça va être quand même très très solide devant. Elles avaient fait très mal aux Françaises lors du dernier tournoi, on n'avait pas su contenir notamment des ballons portés dévastateurs. Maintenant, sur un match, puis c'est un match, voilà, c'est un match de poule, hein, c'est pas un quart de finale ou une demi, donc pourquoi pas se lâcher et créer la surprise.
Ça change quelque chose, Emmanuel, le fait que ce soit un match de poule, quand on joue comme ça une équipe qui n'a pas réussi, ça permet de se lâcher.
C'est pas un match éliminatoire, donc il y aura quand même moins de pression sur les Françaises, et je pense qu'elles sont encore en quête de confiance, donc elles vont avoir, je pense que c'est plutôt bon, en tout cas pour les Françaises, d'aborder ce match dans ces conditions. On sait que la marche est haute, mais pour moi, elle n'est pas impossible.
Il va falloir qu'elle ait plus de constance, hein, quand même, parce que c'est un peu la spécificité de cette équipe quand même depuis quelques mois. J'en veux pour preuve ce match amical contre l'Italie, le premier, hein, pourtant, qui a été conclu par une victoire. Mais 21 points inscrits en première mi-temps et finalement une victoire 21-0. Donc un pauvre 0-0 en deuxième mi-temps sur ce match amical. Et puis elles ont perdu aussi, hein, contre l'Italie sur ce deuxième match amical. Là, c'est pareil, hein, contre l'Afrique du Sud, elles font une bonne entame. Et puis pendant 40-50 minutes, il n'y a plus grand-chose, quoi. Elles ont eu ce sursaut d'orgueil en fin de match, je crois, à partir de la 67e, j'avais noté. Mais il va falloir qu'elle soit un peu plus constante, qu'elle montre un peu plus de poids, notamment dans le combat, parce que les Anglaises, elles imposent un très, très fort combat. C'est Simon Valzer, notre correspondant, notre envoyé spécial en Nouvelle-Zélande, qui me faisait remarquer. Les Anglaises, contre les Fidjiennes, 14 touches, 12 ballons portés, dont certains sur 20, 30 ou 40 mètres. Alors, bon, les Fidji n'est probablement pas la formation la mieux structurée. C'est leur première Coupe du Monde. Donc,
c'est une nation émergente, hein, chez les filles.
Voilà, c'est une nation émergente chez les filles. Donc, il ne faut pas trop tenir compte de ce score. D'ailleurs, à la mi-temps, le score était bien plus serré. Je crois qu'il y avait une dizaine de points maximum d'écart à la pause entre l'Angleterre et les Fidji. Mais en tout cas, effectivement, si l'équipe de France parvient à maintenir un même niveau de performance durant 80 minutes, le 15 de France féminin pourra concurrencer l'Angleterre. Si cette équipe a les mêmes trous d'air qu'elle laisse apercevoir depuis plusieurs semaines maintenant à chaque fois qu'elle joue, ce ne sera pas possible. Et petite statistique quand même, parce que vous soulignez le fait que les Bleus n'ont pas gagné contre l'Angleterre depuis 10 rencontres, mais surtout que les Anglaises restent sur une série de 26 victoires consécutives. Donc ce n'est pas anodin. Ils sont, c'est la première équipe au ranking, c'est la première équipe au classement World Rugby. C'est un gros, 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 gros morceau pour Agathe Socha, Marjorie Mayence et toutes leurs partenaires.
Une des clés sera, et Emmanuel et Arnaud l'ont dit dans leurs propos, c'est la défense des Bleus sur les ballons portés. Elles avaient perdu le match du Grand Slam cette année en tournoi à Bayonne sur des ballons portés. Les Anglaises, j'ai l'impression qu'elles ont utilisé le match face aux Fidji comme une sorte de galop d'équipe, un entraînement avec opposition, et elles ont vraiment abusé des ballons portés. Elles craignent un peu, d'après les propos qui remontent cette semaine du groupe, elles craignent un peu la ligne de trois quarts française. C'est aussi pour ça, les retours dont parlait Emmanuel sont pour ça, c'est qu'on a cherche à densifier le paquet d'avant des Bleus. Et si on arrive à les contrer sur les ballons portés, on a une véritable chance.
Ouais, le retour de la capitaine Gaëlle Hermé sur le banc, ça peut compter. C'est important, ça, Emmanuel, dans un groupe quand son habituel capitaine revient.
Alors, d'une part, forcément, ça vient renforcer l'équipe. Il y a le retour aussi de la vice-capitaine au poste de titulaire Agathe Socha. Et forcément, alors d'une part, ça amène de la consistance à l'équipe, mais ça rassure aussi autour. Ça amène de la confiance aux autres joueuses. Donc voilà, ce sont quand même des piliers de cette équipe. Et oui, c'est des facteurs qui sont positifs, en tout cas dans la préparation de ce match, d'une part. Et puis forcément, après aussi sur le match, voilà, elles vont mener leur expérience. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir qu'elle mette le casque à pointe, comme l'a dit Pierre-Laurent, parce qu'il va y avoir du solide en face. Il va falloir savoir aussi la stratégie qu'elles vont adopter hein, pour contrer ces ballons portés. Il y a plusieurs façons de contrer des ballons portés. Ce n'est pas forcément une épreuve de force. On peut aussi laisser constituer le ballon porté, faire le tour, aller plaquer le dernier porteur du mol, etc. Donc, est-ce qu'elles vont peut-être nous préparer un petit quelque chose pour perturber ces Anglaises? On aura la réponse.
D'accord. On devrait t'envoyer en Nouvelle-Zélande, Imanol, tu vois, pour les coacher justement sur la défense des ballons portés. Je rappelle que ça ne remettra pas en cause, quel que soit le résultat, la suite de la compétition pour les Françaises, hein, puisque les deux premières équipes de chaque poule sont qualifiées. Il y a même les deux meilleures troisièmes, donc elles accrocheront.
Sur trois poules en plus.
Et elles sont trois poules, elles ne sont que 12, donc elles accrocheront, quoi qu'il arrive, évidemment, leur ticket pour la deuxième phase. Donc, je rappelle l'horaire, ce sera à 9h sur TF1. C'est un match, évidemment, immanquable. Vous serez devant votre télévision, messieurs, j'imagine. Merci beaucoup, Arnaud, Pierre-Laurent et Imanol.
On va passer un bon moment. Merci à vous.
Merci.
Ben oui, on se revoit la semaine prochaine.
Et on se donne rendez-vous en fin de saison pour voir Imanol avec le maillot de l'aviron. Hein.
On n'a rien parié.
En finale au Stade de France. En finale au Stade de France, selon Arnaud.
Non, moi, je me suis trompé avec le calendrier de
Pro. J'adore Imanol. Ce que j'adore, c'est voir Imanol dans les tribunes de Jean Daugé quand on voit son visage apparaître sur l'écran géant. Toujours, il se fend un petit coucou auprès des supporters. Voilà, ça leur fait toujours plaisir.
Toujours une grosse cote de popularité.
Allez, bonne semaine à tous.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.